comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
L'absurdité.
Des portraits.
Un soupçon d'actualité.
Une louche de solidarité.
On n'est pas des cadeaux.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plume.
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé. Ou enculé.
Enculé.
La plume. Les radios.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Bienvenue dans cette émission spéciale Lilith Martinet, on n'est pas des cadeaux. Et aujourd'hui, on reçoit Virginie Despentes, donc bonjour.
Bonjour.
Et on avait une petite question pour commencer, c'est toi, est-ce que tu es déjà venue dans ces studios
Oui, je suis déjà venue et j'étais en train de chercher quand et pourquoi. Enfin, c'était pour un livre, c'est sûr, mais je ne me souviens plus pour lequel. Mais je connais les locaux, ouais.
Mais pas quand tu habitais à Lyon.
Je crois pas.
D'accord.
Non, je vois pas.
Il y a une légende qui circule un peu comme quoi tu connaissais.
Bah, je connaissais en tout cas, mais je crois pas que je crois pas. Pourquoi je serais venu répondre à. Non, je crois pas être venu faire l'émission, quoi. Mais on, je connais le chemin.
Ouais. Pour venir. Tu connais le quartier, quoi.
Et alors, aujourd'hui, on devait faire une émission sur les fanzines avec Paul, ces sortes de brochures protéiformes de coups de gueule et d'expérience. Avec en invité Rizzo et Marguerin, on la fera plus tard. On a décidé de suivre l'actualité lyonnaise et de profiter donc de ta venue à la librairie Ouvrir l'œil pour t'inviter dans nos studios.
Merci.
Nous, on voulait nous présenter à toi. Et du coup, nous, c'est une radio, mais pas du tout de professionnels. Des fondus de la FM qui font vibrer l'agglo lyonnaise par du son peu commercial. Des émissions barrées, pas forcément audibles. Des idées dynamiques. Et des envies d'en découdre et de mordre au travers. Donc bienvenue à toi dans les pentes de la Croix-Rousse, bienvenue à toi dans ce studio qui pour l'heure est féministe. Toi qui as réussi à rendre un peu plus sexy ce mot qui sonne moche et insultant pour trop de gens, qui as su rendre féministe des meufs, des copines qui n'oseront jamais le dire grâce à ton King Kong style. Ce qui nous connecte à mon sens, c'est ce besoin d'un féminisme powerful, pas paritaire, pas celui qui fait plaisir aux managers et politiciens, parce que ça ne nous intéresse pas d'être de belles victimes ni de jouer à ce jeu-là avec nos chefs ou nos mecs, plutôt des féministes de poils, des féminismes pardon, de poils et de jupes ras la touffe, de mouille et de rôde, vas-y que je te pousse et de putain que cette meuf est mal baisée qu'ils disent. Nous, ce nous-là, nos deux émissions qui existent depuis presque 10 ans maintenant sur la plus belle rebelle des radios, mais aussi le nous de Radio Rageuse, je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme de radio qu'on a mis en place, d'émissions féministes francophones. Et alors, j'ose même pas te dire, dans ce panel d'émissions, aussi parce que je ne sais pas, mais le nombre de fois où des extraits de tes livres ont été lus et où ton nom a été cité, où tu as inspiré des envies de prendre la parole au micro et sur scène, mais c'est assez impressionnant ce nombre-là, et ce n'est pas pour te mettre à part sur un piédestal ici et maintenant que je dis ça, mais c'est pour t'inclure dans ce nous que je viens de décrire, vivante et vibrante de création, avec cette putain de soif de transmettre notre rage, notre force, nos amours et nos colères, toi par tes livres et ta plume d'autrice, moi et nous là par les ondes, avec en partage ce besoin commun qu'on sait tous et toutes un peu, qu'on soit tous et toutes un peu moins bêtes, avec l'envie maladroite de mettre fin à un monde raciste rempli de frontières et de codes en tout genre, d'un monde où le fric fait monopole et où trop d'inégalités perdurent, une terre où les vies seraient moins précaires. C'est plein de choses qu'on souhaiterait là, un monde où je n'aurais pas besoin d'être fière pour aller manifester demain. Ou un monde où les flics n'auraient pas d'association LGBT, un monde où chaque mort aurait la même valeur. Et voilà, c'est pas simple parce que qui a les armes dans ce pays, c'est pas nous. Mais merci d'avoir répondu à notre invitation Profitons-en pour déballer nos guns à bas, nos guns de stylo, de micro, afin de parler création, de nos besoins de raconter des histoires, même celles qui des genres dérangent.
Sommet, il y a un jardin. Oui, Virginie cultive un petit jardin avec vue sur Paris. Paris dégueulasse, Paris insatisfait, Paris bourgeois. Paris de ceux qui dorment dans le froid. Dans le jardin, les perdus oscillent entre compromis et radicalité. Doit-on fuguer, doit-on rester? Et pourquoi on resterait? Pour le son, elle nous répond. Le son rentre dans les mains, délie la nuque. Tu te mettras à danser pour te sentir verticale. Les étoiles dans le ventre, comme si ça avait toujours leur place. Tu rentreras en transe. Tu réciteras même de la poésie d'ado sur des sons de bateaux ou de craquements de terre. Tu arrêteras l'extasie. Tu commenceras le sexe. Dans le jardin de Virginie, ça baisse pas mal. Il fait chaud. On dirait que l'été trempe dans du whisky. Ça baisse des filles au cul parfaitement érotique et à la queue plus grosse qu'un mec. Et quand ça ne baisse pas, ça chuchote des mots doux. C'est le chaos hormonal. Même les machos se mettent à trouver beau les pédés aux cheveux noirs gominés quand ils ondulent. Ça te plaira, tu verras. Tu deviendras collectif. Tu deviendras ce groupe fou, transi de musique. Ce groupe qui fait l'effet d'une chevelure qu'il faudrait coiffer chaque matin pour lisser les nœuds créés par simple contact et friction. Évidemment, dans tous les coins du jardin, il y a disques, platines, cassettes, tubes et chansons cachées de fin d'album. Ni Dieu ni maître, mais de la mélodie, s'il vous plaît. Faut que ça s'agite. Faut que ce soit parfois le bordel, avec des amitiés de mecs et des plans cul de meufs. Faut que ce soit parfois violent. Que les putes vengent leurs potes à l'encre indélébile. Un certain besoin de justice et de vérité. Dans le jardin de Virginie, on déconne pas avec l'honnêteté envers soi-même. Tu dois être au plus près de tes désirs, quitte à parfois te transformer en petit sachet de guimauve. De toute façon, personne ne te jugera, tu feras des collets de pâquerettes en douce à la nuit tombée. On éteindra la lumière, promis. Être pris en flagrant délit de rêvasserie, puis quoi encore? Dans l'obscurité, les mots seront moins timides, tout est permis. Dans l'obscurité, nous oublierons, nous pardonnerons, nous serons les faibles et les doux.
Aujourd'hui sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, émission spéciale. Virginie Despentes est l'invitée de On n'est pas des cadeaux et Lilith, Martine et les autres, les deux émissions féministes de la plus rebelle des radios.
Alors Virginie, t'es à Lyon pour parler du troisième tome de Vernon Subutex. Alors ça parle de quoi la trilogie Vernon Subutex? Donc Vernon au début c'est un mec qui a jamais arrêté de bosser pendant 25 ans, c'est un disquaire, un mélomane. C'est un homme qui est affecté par la mort de ses potes, un homme seul surtout. Alors il perd son taf à cause de la crise du disque et en pénurie de blé il est expulsé de son appart. C'est un mec qui s'effondre en fait. Et de canapé en canapé, il touche le fond, il s'assoit le cul sur le trottoir et il commence à faire la manche. Dans le monde autour de lui, ça continue à bouger. Et ce monde, il est plein de personnages. Et donc ces personnages, Vernon, il va les croiser. Ou plutôt, ce sont eux qui vont le croiser. Et ils se retrouvent d'une manière ou d'une autre, tous liés à lui. Et tous, en fait, ils vont se mettre à le chercher en regrettant de ne pas l'avoir arrêté au moment où ils croisaient leur route. Par admiration, intérêt personnel, amour de la course-poursuite, toute la troupe le traque dans les rues de Paris, et peu à peu, le mec paumé, Vernon, devient le mec à suivre. En tout cas, c'est là-dessus que s'arrête le deuxième tome du roman. Alors, dans Cette trilogie, on retrouve des personnages, des types de personnages qu'on a pu croiser dans des romans précédents, voire des personnages qui apparaissaient déjà. On pense à la hyène qui, d'Apocalypse Bébé, passe dans la trilogie Vernon. Est-ce que cette trilogie, elle fait somme dans ton œuvre, et est-ce qu'elle ressemble à ce qu'on a pu qualifier d'un roman total?
Bah, moi, quand je l'écris, je ne me rends pas compte, mais là, petit à petit, c'est une réception particulière, ça se passe d'une façon particulière, donc peut-être que oui. Mais moi, quand je suis chez moi et que je mets en place le roman, évidemment, je ne me dis pas là, je vais faire un roman qui va résumer tout ce que j'ai fait jusque maintenant. Et qui va plaire à plein de gens pour plein de raisons différentes. On se dit pas ça, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'était il y a 2 ans que j'ai sorti le premier tome. Il se passe quelque chose avec ce roman de particulier. Ouais. À chaque roman c'est particulier, mais là c'est spécialement bien reçu. Les gens, pour plein de raisons différentes, rentrent dans le livre. Des gens que j'aurais pas forcément attendu.
Et dans le troisième tome, c'est vrai, moi je les trouve tous assez particuliers, ils ont leur spécificité. Et dans le troisième tome, je trouve que les portraits de ces personnages, ils sont plus fouillés. On entre vraiment dans leur complexité. Par exemple, ils sont vus par d'autres personnages, donc on comprend aussi, enfin, ça nuance un peu plus les choses. Et en lisant, j'ai pas pu m'empêcher de me demander quelle part de Virginie Despentes il y avait en chacun d'eux. Et par exemple, il y a pas mal de personnages qui ont des manies. Par exemple, le personnage de Lavero. Elle est capable d'oublier le linge dans la machine jusqu'à ce qu'il moisisse, mais elle classe tous les sachets plastiques et papier par taille et couleur. Tu écris, le cerveau des gens qui ont des objectifs irrationnels a plus de profondeur de champ que celui de ceux qui fonctionnent normalement. Il a des coups d'avance, il voit loin. Est-ce que toi, Virginie, tu as des manies?
En tout cas, je n'organise pas les sacs plastiques. Non, mais je pourrais, mais non. J'ai plus une obsession avec les emballages. Je garde super bien les trucs à bulles, les trucs que j'ai une obsession, j'adore faire des paquets. Donc, mais c'est pas au niveau de Véro. Ça prend pas de la place chez moi ou c'est pas irrationnel. J'ai pas vraiment de toc, mais j'ai un rapport, par exemple, maniaque ou que je contrôle pas bien avec tout ce qui est drogue. Notamment la drogue qui se fume. Ouais. Des fois c'est cool, des fois ça m'échappe, quoi. Mais c'est plutôt là-dessus, ouais, moi, que ça va se déclarer. Mais je trouve autour de moi, je connais pas mal de gens qui ont des manies, et je trouve ça toujours assez poétique. C'est problématique pour eux, mais de l'extérieur c'est assez poétique, quoi, parce que d'un coup t'as un comportement particulier. Donc l'Avéro, je me suis dit ça serait marrant qu'elle classe des emballages. Voilà.
Et dans l'écriture, est-ce que t'as des manies?
Non, dans l'écriture j'ai beaucoup de... Je trouve que j'ai beaucoup de mal à écrire, je trouve que c'est quelque chose de contre-naturel, de difficile en fait. Et c'est une question que maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'écris des romans, donc c'est une question que je me pose vachement. Pourquoi ça fait peur d'écrire? Parce que je ne suis pas la seule. Ce n'est pas vraiment l'angoisse de la page blanche, parce qu'en général, tu sais ce que tu veux écrire, tu le sais même vachement bien, et tu peux mettre 3 mois avant de le faire. Et pourquoi il y a une... pourquoi c'est impressionnant de te mettre devant un ordinateur, ouvrir Word et écrire tes 4 pages de conneries ou pas, mais des trucs que t'as en tête, ça, c'est quelque chose que je me demande encore. Mais sinon, du coup, j'ai pas de manie parce que j'écris quand je peux. Donc j'écris ni à un moment précis, j'ai pas un rituel, j'ai pas... parce que la seule manie que j'ai, en gros, c'est qu'au moment où je me dis, là, j'écris, je vais me couper, je vais pas voir beaucoup de gens, je vais pas beaucoup sortir voir un concert ou un film, je vais rester beaucoup enfermé chez moi.
T'as besoin d'être seule, un
peu. Je peux être avec quelqu'un, mais j'ai besoin d'une espèce de monotonie pour qu'à un moment donné, quand même, finalement, je réussisse à ce que ça sorte un peu, quoi. Mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse vachement. Pourquoi ça fait peur d'écrire? Parce que c'est absurde. Mais il n'y a tellement aucune différence entre écrire et pas écrire. C'est pas... Par exemple, si tu fais un film, ne pas venir au tournage de ton film, c'est un gros truc. Et alors que ne pas écrire une page de la journée, c'est super facile. Donc il y a une nuance entre faire et pas faire qui est tellement infime. Et je trouve ça passionnant qu'on puisse avoir peur d'écrire et de savoir que je ne suis pas la seule à avoir du mal à m'y mettre ou du mal à me relire, ou je discute vachement avec d'autres romanciers, je vois que c'est assez courant même.
Et au début du troisième tome, il y a un autre personnage, le personnage de Kiko, l'ex-trader cocaïnomane, qui est persuadé que Vernon est une sorte de prophète. Il dit « Vernon a un don et il suffirait de bien organiser la com pour que ce soit énorme ». Donc c'est une sorte de création d'idole, on peut dire. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être devenue une idole après avoir été longtemps une fan? Enfin, peut-être que tu es encore une fan d'ailleurs, mais...
Idole, je vois que Virginie, moi je suis moi, Et je vois que Virginie Despentes, elle existe au-delà de moi dans le regard de certaines personnes, ça je m'en rends compte. Et comme moi, effectivement, j'ai projeté plus jeune, parce que je trouve qu'avec l'âge, ça, en tout cas, moi, ça change. Plus jeune, j'ai vachement projeté sur des gens. J'étais amie imaginaire, je sais pas, avec Courtney Love, avec Lydia Allen, avant de la connaître. Lydia, je l'ai rencontrée, ça faisait déjà 20 ans que j'étais sa copine, quoi. Elle le savait pas, mais moi, en ce qui me concerne, je vivais avec elle depuis super longtemps, quoi. Et du coup, je sais ce que c'est que projeter sur quelqu'un, et j'ai aucun rejet, parce que je trouve que c'est un joli truc d'avoir ces amis-là, ces amis imaginaires que tu... Mais quand c'est toi, tu sais pas trop comment répondre, parce que toi, tu connais pas les gens, donc et en plus, je me suis timide, donc c'est un ancien autre monde. Mais je vois que Virginie Despentes, petit à petit, elle existe dans la tête des gens, bien au-delà de pas, c'est pas moi, quoi. J'y suis pas pour rien, mais presque.
Alors, t'as été nominé cette année pour... ce qui va s'appeler les Outdoors, qui va récompenser en fait les personnalités qui font de la visibilité autour des thématiques LGBT. Je me demandais comment toi, dans la trilogie Vernon, t'avais réfléchi à cette visibilité des personnages LGBT qu'on croise au même titre que tous les autres en fait.
J'ai réfléchi pas avant, j'y réfléchis peut-être quand même quand je relis. Et de fait, j'ai pas besoin, je suis tellement entouré. Notamment de Gwyn, mais aussi de PD, de moins en moins, quand même, de très peu d'hétéros. Ça m'arrive, j'en fréquente, j'ai de très bons amis hétéros, mecs, même, mais que c'est spontané, ça vient. Il faudrait au contraire que j'ai que je me censure pour que ce soit autrement. Et après, quand je sais quand même à peu près dans quelle époque j'écris, donc je sais que quand je commence le tome 1 à l'écriture, on est en plein dans les manifs anti-mariage gay. Et évidemment, ça me donne envie de personnages lesbiens. Ils seraient là de toute façon, mais ça me donne encore plus envie. Parce que je me dis, c'est comme une... je crois très fort, je crois que la propagande est très importante. Je crois qu'elle nous traverse d'une façon beaucoup plus profonde et insidieuse que ce qu'on imagine. On a l'impression qu'on peut se protéger de la propagande commune. Je pense qu'au contraire, elle nous influence tous. C'est pour ça que la pub, au fond, ça marche, même si on se dit je m'en fous de la pub, c'est pour ça qu'ils en font autant, c'est que le matraquage, ça marche, donc je crois que la propagande, c'est important, donc la contre-propagande, ça me paraît important aussi. Je sais que je suis un écrivain quasi mainstream, et je me dis, ouais, c'est important d'envoyer des messages contraires dans certaines situations. Donc évidemment, quand j'écris le tome 1, je me dis pas je vais mettre des personnages LGBT et les traiter de telle façon, mais spontanément, je sais à quel moment je suis en train d'écrire. Si c'était... la Gay Pride tous les jours, peut-être que j'aurais envie de faire une critique, tu vois, mais là, c'est pas un moment où j'ai envie de faire une critique.
Et alors, j'avais une question sur tes personnages dans Vernon Subutex, parce que je suis un peu le mauvais élève, en fait, j'ai lu le premier tome, d'ailleurs avec une pote à haute voix, ce qui était très agréable comme mode de lecture. Mais peut-être c'est à cause de ça, mais pour nous, là, quand on l'a lu, ça faisait trop de... personnages avec beaucoup de psychologie décrite et un peu des personnages que je trouve assez connards. Et j'ai trouvé, moi ça m'a généré une lourdeur qui est autant de psychologie. Et du coup, j'avais envie de te questionner autour de c'était quoi ton choix là-dedans, et est-ce que tu peux me donner envie de lire le deuxième et le troisième tome?
Non, je peux pas. Pour la deuxième partie de la question, je peux pas te donner envie de lire, parce que je crois qu'on faut pas, faut aller vers ce qui nous intéresse. Il y a beaucoup de choses à lire, faut aller vers ce qu'on a envie de lire à ce moment-là. Et après, moi, si je suis, parce que mes premiers romans, je fais attention, je pense à pas mettre de psychologie, parce que j'ai comme une méfiance de ce type. Et après, si je suis sincère, c'est ce qui m'intéresse le plus chez les gens. Si je suis moi, je suis dans ma tête, je vois ce que je pense. En vérité, essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, d'où ça vient, quelle accumulation de circonstances font qu'à un moment donné, par exemple, des gens que je connais, d'un coup, je les écoute dire un énorme truc super raciste. C'est vrai que je vois ce que mon esprit fait. Mon esprit, c'est de comprendre. Donc, à partir de là, t'as entendu ça, t'as fait ça, il t'est arrivé ça, t'accumules là, tu veux pas. Et ma tête est comme ça. Ce serait pas sincère si je continue. Enfin, ce serait pas. Ce serait presque contre nature, ma tête est comme ça, j'essaie de comprendre les gens, et de façon très psychologisante. Mais j'en suis consciente, et j'ai commencé à le libérer dans Apocalypse Bébé, et après dans Vernon, je fais ce que j'ai le plus envie de faire, et je crois que c'est bien, et je pense que c'est bien aussi que tout le monde ne soit pas intéressé par le même roman. Enfin, toi, ça me trouve ça pas. Effectivement, si ça t'intéresse pas, faut lire autre chose. Ça me paraît bien, et réellement bien, quoi. Pas.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. On vient d'écouter David Bowie avec la chanson Lazarus. Et on est toujours en présence de Virginie Despentes, une émission spéciale On n'est pas des cadeaux, et Lilith Martin et les autres ce soir.
Et il fait bien chaud dans les studios. Et alors, pour continuer un peu sur les questions par rapport à ton écriture, moi je me suis demandé, enfin je me demande quand et comment tu aimes écrire, et notamment cette trilogie qui a, enfin, t'as sorti les deux premiers tomes en 2015, et après, deux ans après, le dernier tome. Et voilà, par rapport au lieu, en fait, et au temps, comment tu gères ça?
Bah, sur ce roman précis, par exemple, sur le premier tome, je l'ai écrit énormément à Barcelone, dans des apparts différents, et j'étais avec quelqu'un qui travaillait vachement, donc j'étais beaucoup seule, donc c'était des... Si je me souviens de moment où j'écris, ouais, c'est soit des matins, soit des soirs, soit des après-midi. Mais ce qui était cool, entre guillemets, c'est à Barcelone où je connais quand même moins de monde. Ou en tout cas, c'est plus facile de ne pas être sollicité.
Ils vont tenter.
Ouais, non mais sérieux, ouais, parce que Paris, c'est plus. Ouais. T'as plus facilement une semaine qui part, quoi. Et donc, ça a été ça. Et après, franchement, j'ai jamais compris. C'est pas la première fois que ça m'arrive avec un roman. À un moment donné, j'ai 1000 pages et je ne me souviens pas à quel... J'ai l'impression que ça fait un an que je n'arrive pas à écrire. Et puis quand je relis, je me dis, t'as quand même réussi à écrire, parce que tout mis bout à bout, ça fait 1000 pages. Quoi. Mais il y a un truc comme ça où j'ai l'impression tellement tout le temps que j'y arrive pas, je suis pas en train de faire ce que je dois faire. Il y a un truc comme ça, un peu maso, de monologue intérieur, de ça va pas. Et en fait, à un moment donné, il y a quand même y a de quoi travailler. Quoi.
Ok. Et tu réécris beaucoup ?
Je réécris pas beaucoup, mais je coupe beaucoup, je relis beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je réussissais pas à faire sur, pendant plusieurs romans, parce que ça me, je réussissais même pas à me relire tellement ça me crispait. Et là, depuis 2-3 livres, je commence à me relire avec un peu plus de calme et de tranquillité. Quoi. Donc, ouais, j'aime bien couper. Je trouve que c'est le moment le plus intéressant, en fait.
Il y a quelques allers-retours qui se font avec ton éditeur ou ton éditrice ?
Pour l'instant, non. Il y en a un quand même à la fin. J'envoie le livre et il y a deux personnes qui me lisent chez l'éditeur et qui me font des remarques dont je tiens compte. Mm. Pas toutes, mais dont je tiens compte en général. Mais pas très tôt dans le roman, en fait. Parce que, comme je suis très angoissée, comme on a commencé à le comprendre par rapport à l'écriture, j'aime pas qu'on me lise trop tôt. Voilà.
Ok. Alors moi je vais te demander, est-ce que tu as une écriture féminine ou féministe, ou est-ce que tu penses que ton écriture justement elle transcende même la notion de genre
J'espère qu'elle transcende la notion de genre. Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour m'en rendre compte. Je pense que ce serait intéressant pendant quelques années de lire uniquement des romans sans connaître le prénom de l'auteur. C'est pour ça que moi j'ai retiré Virginie des couvertures de Vernon Subutex pour regarder que des pentes. Et je suis presque convaincue que ça joue inconsciemment dans la tête des lecteurs. Je suis presque convaincue que ça donne plus de poids au roman. Et je pense que ce serait réellement une expérience intéressante pendant par exemple 3 ans, demander à tous les lecteurs, libraires, critiques, de lire des romans, pas sans connaître l'auteur, parce qu'à un moment donné, tu as besoin. Mais pour les nouveaux auteurs, sans savoir. Et je ne sais pas si on serait vraiment capable. Pour certains romans, peut-être, mais je pense qu'en général, on se tromperait. Je pense que c'est une des choses que tu cherches à faire dans l'écriture. Tu fais parler quelqu'un qui ne parle pas dans la vraie vie, à l'intérieur de toi. Donc ce quelqu'un, je ne pense pas qu'il soit genré. Après, il y a des... Mais il y a des contre-exemples, mais par exemple, je pense qu'on serait... Si on était débarrassé du prénom qui nous donne un genre, je pense qu'on serait surpris de voir... Quelles sont les voix réellement qui émergent ? Je pense qu'il y a des auteurs féminins, par exemple, effectivement, qui se sentent obligés d'être un auteur féminin, ou des auteurs masculins qui se sentent obligés de... Et que si on pouvait se libérer de ça, je pense que ça serait pas une mauvaise chose. Mais bon, et donc moi, ceci dit, j'ai pas l'impression d'avoir une écriture féminine. Mais ça, c'est pas... Moi, je suis l'émetteur, je peux pas trop décider pour les autres de comment ils veulent le lire, quoi. Par contre, j'espère que j'ai une écriture féministe. Toi, depuis le début, je pense que c'est un féministe qui... on voit ce que c'est que le féministe. Il y a d'autres féministes qui ont, depuis le début, qui ne sont pas contentes de voir un truc comme Baise-moi, avec un auteur qui dit ça, c'est du féminisme. Mais moi, c'est mon féminisme. C'est pas non plus je ne l'ai pas inventé toute seule dans ma cuisine. C'est une généalogie, je m'inscris dans une histoire, quoi. Et j'espère, ouais, quand même que je transporte des... soit des contre-stéréotypes, soit de légères déviations. Enfin, j'espère que c'est quand même féministe que j'écris, je l'espère. Mais je me le dis pas, je m'assieds pas devant ma table en me disant... ça, c'est quand j'écris King Kong Theory. Un essai, quoi. Mais dans un roman, je me dis pas, je vais faire une démonstration féministe, en fait. Je me dis, je vois à peu près ce que je vais étudier, d'écrire, et essayer de décrypter, ou d'assembler, ou d'ordonner, mais ça va pas être une démonstration... Il y a des passages, oui. Mais tout le roman, je le conçois pas comme une démonstration féministe, en fait.
Et justement, dans Baise-moi ou dans Bande en travers, par exemple, t'as commencé avec un style vraiment punk et trash. Et du coup, je me demandais quel regard tu portes sur l'évolution de ton écriture maintenant. Et aussi, qu'est-ce que ça a fait à ton parcours, en fait, de commencer avec un tel pavé dans la mare, avec un tel scandale qui a été celui de Baise-moi, quoi.
Moi, j'étais assez contente. je me rendais pas compte en le mettant au point et en le publiant à quel point ça, où j'arrivais, en fait, quelque part, à quel point c'était un salon particulier, la littérature française. Donc j'avais pas compris que ça allait, mais c'était, j'ai beaucoup aimé, quoi, toute l'expérience. Après, c'est pareil, je vais pas me dire, une fois que j'ai fait Baise-moi, je peux pas me dire je vais faire touche de sperme, ça veut dire que je vais pas recommencer encore le même genre de... parce que c'est fait. Et que je crois que ce qui est intéressant, c'est essayer de varier de laboratoire, quoi, essayer autre chose, en se trompant pas. Des fois, revenir sur un truc, parce qu'on en... quelque part, par exemple, Vernon Subutex, c'est comme si j'étais revenu sur Teen Spirit, parce que c'est exactement le même genre de personnage. Mais c'est pas conscient, mais si je réfléchis, je me dis quand même, je repasse sur le même... Et ça, c'est pas inintéressant, mais c'est des années après, il y a eu d'autres choses entre... Et je trouve ça... J'espère que j'évolue, pas du niveau 1 au niveau 4, mais de comme si j'élargissais la carte, d'une carte de plus en plus vaste, j'espère, de préoccupations, ou de... J'espère, ça fait longtemps que j'écris, j'espère que j'élargis un peu quelque chose, quand même. Mais je les aime bien, en tout cas, mes premiers romans. Je trouve que c'était une jolie façon. C'était un peu dur, parce que les gens se sentent provoqués, ils ont l'impression que c'est ce que tu as voulu faire, les provoquer. Et c'est très compliqué de leur expliquer que c'était juste pas à eux que tu parlais. Mais j'ai bien aimé tout de suite le type de rapport que ça établissait avec les lecteurs à qui ça plaisait. Parce que c'était un rapport tout de suite très, très intime, très... pas intime... tranquille, quoi, mais fort. Il y avait une intensité de rapport, je trouve.
Et justement, tu dis que tu as besoin des fois de revenir sur peut-être certains personnages. Et moi, je voudrais juste te reposer une question par rapport à la hyène, parce que je trouve que c'est quand même un personnage fil conducteur, un peu. En fait, je voulais savoir tout simplement qu'est-ce qu'il représentait pour toi.
Je l'aime bien, je sais pas trop ce qu'elle représente, mais je l'ai bien aimée dans l'Apocalypse. J'avais envie, je me dis, bon, elle était pas morte à la fin, elle.
C'est un personnage qui survit aussi un peu.
Ouais, et puis il y a des personnages que t'aimes bien. C'est comme si tu te mettais dans une voiture un peu. C'est-à-dire, je crois pas trop au personnage qui t'emmène ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est plus ou moins plaisant de te mettre dans la peau d'un personnage. Et la hyène, je l'aime bien. Après, il y a des fois des gens pas sympathiques du tout que j'adore. J'adore Kiko. C'est vraiment, ouais. Lui, pour le coup, il est vraiment désagréable. Mais j'adore être dans la peau de Kiko parce qu'il est tellement, c'est tellement le capitalisme décomplexé et brutal. Et que j'adore, c'est vrai que j'adore manipuler Kiko. J'adore m'asseoir et me dire là, ça va être un solo de Kiko. Allez, ok, ça y va les conneries. Et ça me plaît, quoi. Et la hyène, il y avait quelque chose comme ça à la fin d'Apocalypse. Je me suis dit, ouais. J'aime bien. Je la reprends. En fait, à un autre moment. Et qu'est-ce qu'elle représente, je sais pas, mais c'est une bonne compagnie, quoi, pour moi.
Et peut-être juste pour redire un peu pour les auditrices, auditeurs, la hyène, donc c'est une détective lesbienne plutôt masculine.
Un peu Clint Eastwood, ouais, c'est un
ouais,
peu comme si
un peu avec un physique particulier. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est la description que tu fais de son physique aussi.
Ouais, qui... elle est super arrogante, quoi. C'est pas du tout une lesbienne. Ouais. Timide ou effacée, enfin peut-être c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'elle est vraiment le contraire de moi. Elle est super arrogante, très sûre de sa séduction, quasi macho, sauf qu'on peut pas être exactement macho de la même façon qu'un macho en étant lesbienne. Et très, quelque chose de très prédateur. Et ce qui est intéressant là pour moi à essayer de travailler dans Vernon Subutex, c'est que c'est quelqu'un qui a pour la première fois des cas de conscience. Dans Apocalypse Bébé, c'était quelqu'un qui a aucun cas de conscience, c'était quelqu'un qui était payé pour faire ça ou ça, et qu'il faisait. Et là, c'est si on la compare à un citoyen, comme quelqu'un, quand même, à un moment donné, qu'on a marre de faire ce qu'on lui demande de faire pour avoir l'argent. Et c'est intéressant pour moi d'essayer d'amener dans la trilogie, quoi. Et après, elle bascule du côté du bien. C'est bien aussi.
Tu parlais tout à l'heure du fait qu'au fil de tes romans, il y a quelque chose qui s'élargit. En tout cas, t'as l'impression que c'est le cas aussi pour ton lectorat, enfin, tes lecteurs ou tes lectrices. T'as l'impression que c'est plus de gens, moins de gens, je sais pas.
Ça dépend des livres. Là, sur le Vernon Subutex, oui, mais ça dépend. Là, c'est à chaque roman. Moi, j'ai toujours été surprise à partir de Baise-moi, j'ai été surprise du nombre de gens. Qui rentrent dedans et souvent tu t'attends pas à eux. C'était vrai pour Baise-moi, c'était vrai pour King Kong Theory, c'est vrai pour Vernon. De gens, si tu m'avais demandé avant en me donnant leur, je t'aurais dit ça, je crois pas, donc ça m'intéressera. Puis en fait, parce que la lecture, je crois, c'est vraiment un truc que tu fais, c'est intime, t'es tout seul et tu l'ouvres ou pas le texte. Et du coup, il y a des gens, je pense, qui se laissent. Ça va pas avec leur. Ça va pas très bien avec leur personnel, ce qu'ils sont dans la vie, mais n'empêche, il y a quelque chose en eux qui peut ouvrir cet endroit-là. C'est le moment où ils vont se souvenir de ça chez eux ou prendre conscience de ça chez eux, quoi.
Et puis heureusement qu'on lit pas que des choses qui nous ressemblent.
Ouais.
C'est aussi fait pour ça, la littérature.
Heureusement, ouais. En fait. On va chercher des trucs qu'on. Ouais.
Et au cinéma, tu trouves que c'est ça, enfin dans tes films,
qu'il y a beaucoup de gens ou que
enfin par rapport, enfin est-ce que t'as l'impression que c'est les mêmes gens qui vont voir tes films
ou... Non, c'est super différent le cinéma. Il y a beaucoup plus de gens qui se sentent il y a beaucoup de gens qui se sentent pas autorisés à lire des romans, même les miens, hein, qui sont pourtant pas des romans. Tu vois, on sait qu'on peut les lire sans. Du moment où on sait lire, on peut à peu près comprendre où je veux en venir, quoi. Mais le cinéma, c'est beaucoup plus vaste. Tout le monde se permet de s'asseoir et regarder un film, là, c'est donné à tout le monde. C'est très différent. Alors que la littérature, on reste quand même. C'est très peu de gens qui osent même rentrer dans une librairie, alors que je crois que presque tout le monde ose rentrer dans un cinéma. Enfin, une grande partie de la population sera autorisée à rentrer dans un cinéma. Une librairie, c'est beaucoup plus compliqué. Il reste beaucoup de monde, ça va, mais c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, il y en a qui ne se sentent pas légitimes presque.
Non, mais il y a des gens, ça lui va, mais qui n'ont pas envie du tout. Tu ne vas pas leur donner rendez-vous dans une librairie, quoi. C'est que, tu sens que tu les froisses, quoi.
Autrement, au niveau de la nostalgie, donc du coup, la trilogie, c'est un peu quand même. Il y a quand même la notion de la nostalgie. On se demandait en fait si c'était nostalgique de Lyon.
J'ai une nostalgie de Lyon. J'ai une nostalgie de Lyon comme vie. J'ai une nostalgie de Lyon comme l'âge que j'avais quand j'y vivais. J'ai une nostalgie de Lyon des aventures qui sont passées à ce moment-là, que j'ai vécues, auxquelles j'ai pris part. Ouais, j'ai une nostalgie de Lyon. Mais j'ai une nostalgie en général. J'ai les deux. J'ai une nostalgie d'un autre moment politique, là, pour le coup, au sens collectif. Et en même temps, je ne suis pas non plus au quotidien, je ne suis pas quelqu'un de très nostalgique. J'adore un tas de choses de ce qui est en train d'arriver, de ce qui se passe. Et puis, de toute façon, je comprends bien que ça me plaise ou non, on ne reviendra pas en arrière. Donc, je suis à la fois très nostalgique et à la fois pas tant que ça, quoi. Un peu les deux en même temps. Mais en tout cas, pour la partie de la question, oui, j'ai une nostalgie de Lyon, hein, c'est vrai.
Okay. Et pour revenir à ton processus d'écriture globalement, est-ce que toi tu réfléchis à comment tu vas écrire certaines choses?
Non, je réfléchis une fois que je vois que j'y arrive pas. Des fois il y a des scènes, tu dis, bah, c'est des scènes bêtes, hein, des fois. Par exemple, il y a une scène de groupe, ils sont une quinzaine à manger dehors. Et ça, paradoxalement, c'est un des moments où tu. Il va bien falloir que je l'écrive parce qu'à un moment donné, ils sont 15 à manger dehors, basta. Et ça, par exemple, ouais, en voyant que j'y arrive pas, je vais commencer à réfléchir. Mais je réfléchis une fois que je vois que ça ne marche pas et que j'ai vraiment besoin de cette scène, je ne peux pas la couper complètement. Et là, je réfléchis. En général, je commence à lire d'autres gens et à me dire à quel moment ça s'est réussi chez d'autres. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas souvent des dîners d'or à plein réussis. Et quand si quelqu'un y arrive, essayer de comprendre un peu comment lui ou elle a résolu ça, quoi. Mais sinon, non, je réfléchis dans ma vie, mais pas tellement avant d'écrire. C'est-à-dire pas tellement à... Il y a beaucoup d'auteurs qui sont beaucoup plus conscients que moi de ce qu'ils sont en train de faire, et c'est quelque chose que j'essaye pas de faire. Il y a d'autres choses où j'essaie de réfléchir. Mais là-dessus, je pense qu'il faut être, dans mon cas, comme au plus sincère, ça veut pas dire ma vérité ou je sais pas quoi, mais au plus essayer d'aller le plus possible vers ce dont j'ai envie de parler et en parler comme j'ai l'impression de l'avoir vu, essayer de comme je l'ai compris, quoi.
Mais tu t'es jamais fait prendre au dépourvu? Non, parce que on a essayé de formuler une question un peu aussi autour de la censure, parce que par exemple là, à l'automne à Canu, on a été emmerdé par les flics. Suite à des propos ironiques faits par les flics, et les gens sont concrètement en direct emballés, du moins sont fait prendre dans leurs propres mots.
Ouais.
Et que je trouve que quand on a un rapport public aux choses, et on peut se faire prendre dans les mots et pas forcément savoir comment en revenir. Et du coup, des fois, est-ce que tu t'es dit est-ce que je vais m'auto-limiter? Ou tu vois, quelles ont été tes stratégies là-dessus? Ou au contraire, tu t'es jamais bridé et tu t'es dit, il faut tout dire?
Non, je me bride. Mais déjà, c'est pas pareil, parce que la différence avec de la radio, c'est que moi, je vais me relire à tête reposée plusieurs fois. Et effectivement, je vais quand même le donner à un moment donné à deux personnes de la maison d'édition qui vont le lire et qui vont éventuellement me dire, mais en fait, là, ça c'est pas arrivé, mais... qui peuvent m'attirer mon attention sur des moments où... Mais moi, si, là, c'était particulier, parce que comme Verdun, il y a vachement de solos de type ultra-raciste ou hyper-misogyne où justement Kiko, une espèce de qui est un trader libéral heureux, en tout cas au début du dans le premier tome, déchaîné, complètement déchaîné dans sa joie d'être riche et que les autres soient pauvres et que ça fait de lui quelqu'un de meilleur et il les encule tous. C'est vrai qu'il faut ou même là dans le dernier, toi il y a des il y a un solo assez court, mais il y a un solo antisémite parce que j'ai l'impression d'entendre ça autour de moi émerger de plus en plus, et ça pas qu'en France pour le coup, comme une quelque chose qui pousse quoi. Ça quand je l'écris comme je veux, mais quand je le relis, je me dis il y a des moments c'est pas la peine de faire trop long parce que ça c'est pas la peine de me défouler trop parce que on n'a pas besoin de ça en ce moment urgemment, encore plus de racisme. Je veux que ce soit représenté, mais je veux pas non plus je veux pas y passer 12 pages quoi. Ouais, ou être trop y prendre trop de joie quoi, parce qu'il y a quelque chose de quelque chose qui te fait du bien, je trouve, quand ça sort, parce que t'as l'impression que ça t'est rentré dans la tête et que là tu le ressors, mais il y a un moment où c'est pas la peine de trop être virtuose à ce moment là quoi. Donc j'essaye, c'est à la relecture quoi. Des fois j'essaie de baisser le volume. Normalement j'essaie de baisser le volume. Je me dis, on a compris, ça va quoi.
On vient d'écouter Antidaté, le terrible duo magnifique issu du split avec Chaudière. Et Malika est là avec nous ce soir. On a beaucoup de chance. Elle est en concert, Malika, avec son acolyte le 21 chez Rita, au Rita Plage. Et le 24... Ah non, c'est pas ça. Bon, on vous
la méduse, à la méduse, elle, dit. De... elle m'a mimé la méduse.
Ah oui, à la méduse, le 21 à la méduse, juste à côté de Radio Canu. Et le 23 à l'Atmo, merci. On continue sur l'interview Vernon Subutex.
Ah, donc il y a encore deux questions. Donc, est-ce que Vernon, c'est fini ou pas?
A priori, ouais. D'accord. A priori, à moins d'un... Mais pas tout de suite, ça c'est sûr. Pour l'instant, Vernon, c'est fini.
Petite pause, petit break de... ouais. Et est-ce que tu as d'autres projets en ce moment?
J'en ai plein et il faut que je prenne, je pense, là, 3 mois. Mon premier projet, c'est rien faire pendant 3 mois. Enfin, rien de. Et pour justement essayer de voir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'intéresse le plus. J'ai envie d'écrire un essai sur l'alcool, sur les addictions en fait. Mais je ne sais pas si je le ferai. Je fais des lectures avec un groupe lyonnais d'ailleurs qui s'appelle Zéro et Béatrice Dalle. On a aussi le projet de faire ces lectures. Mais après, j'aimerais aussi peut-être retravailler quelque chose d'équipe, sur un, peut-être pas un film, mais en tout cas quelque chose de visuel, ainsi comme un film. Pas forcément un film classique, mais quelque chose comme ça, bref.
T'étais venue avec Zéro au Festival du Livre de Bron.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
D'accord.
Et est-ce que tu lis, et qu'est-ce que tu lis, et qu'est-ce que tu aurais envie de nous conseiller?
Mais plein de trucs, mais là le problème c'est que j'ai... parce que non mais je pense il y a un livre que je viens de lire et j'ai déjà oublié le nom de l'auteur.
Comment ça s'appelle?
Mais sur les grosses, sur être grosse, un essai.
C'est On n'en est pas grosse, non?
Ouais, On n'en est pas grosse. Et j'ai trouvé ça génial. Je l'ai lu d'une traite, ça m'a paru, parce que je trouve que c'est un thème qui m'intéresse vachement, qui me passionne. Il y a aussi une fille qui s'appelle Roxane Gay, là, qui vient de publier aux États-Unis. Son essai a l'air super. Et je trouve que c'est un sujet sur lequel. Et qui est très. Qui dit beaucoup d'autres choses. C'est intéressant de toute façon en soi comme thème, mais qui dépasse tout de suite, qui appelle plein d'autres réflexions, parce que c'est un des thèmes vraiment intéressants, et notamment du féminisme, mais pas que pour le féminisme, pour plein de choses. Évidemment, le livre de Karazina Andigang, parce que Karazina, c'est mon amie depuis ma plus vieille amie, et que son bouquin est super drôle. C'est une histoire d'handicapés qui se mettent ensemble pour faire de l'action directe. Et que, alors évidemment, je le conseillerais. Mais il y en a d'autres, parce que moi je lis énormément de romans français, comme je suis dans un jury du Goncourt. Je lis là tout l'été, je vais tous les lire et je pense qu'il y en aura des biens. Et évidemment, je conseille Jaénada, parce que Jaénada, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que j'ai jamais lu un livre de Jaénada qui ne sera pas absolument génial. Quoi. Et je pense qu'il y en aurait d'autres, mais là, ça pour le coup, j'aurais fallu me le demander avant, parce que j'ai une mémoire de petit pois, quoi. Par où, de fumeuse de pétard, plus exactement.
Peut-être un petit truc en conclusion, parce que là, on va aller vers des trucs plus ludiques. Alors, je sais pas, vous voulez poser une question de conclu ou...
Non.
Ouais, on verra. Bon, alors, on passe au QCM. Bon, c'est drôle, hein. Normalement.
Je sais pas pourquoi ça m'inquiète comme intro.
On est le 15 août.
Ah oui, attends, il faut poser la question.
Quelle lyonnaise êtes-vous?
D'accord.
Quelle lyonnaise êtes-vous? Donc, on est le 15 août, il est midi et il fait 39 degrés sous les pentes de ton appartement. Tu as grand besoin de te rafraîchir. Que fais-tu?
Ah, tu appelles ta copine Martine. Ses parents ont une baraque avec une super piscine dans les monts du Lyonnais.
B, tu pries pour que ta 205 démarre et te ramène à Miribel-Jonage.
C, tu vas voir un film contemplatif coréen au Comédia. 3h30 de clim pour 5,40€. Qu'est-ce qu'on fait le mieux en ce moment?
La clim. Ah ouais, j'adore aller au cinéma quand il fait chaud. Ouais.
Tu apprends sur France Culture que Benjamin Biolay reprend l'intro de King Kong Theory dans son nouvel album.
Ah, tu vas taguer Nick Biolay sur tous les murs de la montée de la Grande Côte.
B, tu organises un auto-dafé avec ses CD sur la place Bellecour.
C, tu te mets à l'héros.
Mais aucun des trois, ça me déplairait pas plus que ça, parce qu'il faut savoir, moi je le connais pas bien, Benjamin Biolay, mais je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. J'aime autant vous dire que quand elle le rencontre, ce mec fait tomber toujours toutes les lesbiennes que je connais. Et je connais pas mal qui l'ont, et je sais pas pourquoi, c'est un secret. Du coup, un jour, j'ai fait une interview croisée avec lui pour. Moi, j'ai trouvé juste super sympa, mais j'ai pas eu le. Mais c'est presque un problème. Donc non, tu vois, ça me semblerait pas si ouais non incroyable. Puis vraiment pas des rigolotes, des meufs. Tu comptais sur elles, tout allait bien, et d'un coup elle revient. Il est vraiment super, non mais c'est un problème. Et tu bon ok. À un moment donné, tu t'inclines, tu peux pas. C'est une, deux, trois fois, c'est fait quoi. Ok.
C'est la fête du cinéma. Toutes les séances sont à 2€.
Ah, tu en profites pour te faire la rétrospective de Eisenstein à l'Institut Lumière.
B, tu rentres incognito au cinéma opéra pour voir ton propre film et guetter les réactions du public.
C'est rien à foutre de la fête du cinéma, tu restes chez toi regarder Game of Thrones.
Exactement, des séries à la maison.
Ta tante Brigitte et son gros con de nouveau mari sont de passage à Lyon ce soir.
Ah, tu les amènes à la brasserie Saint-Georges. Macho comme il est, le mari de Brigitte paiera l'addition. Et ça fait longtemps que tu avais envie de goûter le fameux Gros Hermitage. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est du vin.
C'est
ah,
du vin.
Ah oui, pardon, alors... excusez-moi. Oui, ben oui, ben je n'en bois pas, voilà.
Oh, B, c'est dommage, tu peux vraiment pas passer de temps avec eux parce que t'as une soirée crêpe prévue depuis hier. Ah non, depuis hyper longtemps, tu leur files les clés de l'appart et tu les laisses faire leur vie.
C'est Marie ou pas Marie, Tata Brigitte est toujours la bienvenue chez toi. Tu déplies le canapé et tu prépares un gratin dauphinois.
Alors là, ça dépend de comment est Tata Brigitte, parce que si on est vraiment Tata Brigitte, on est potes, comme oui, c'est quoi. Après, si Tata Brigitte, on n'est pas trop potes, je suis pas là, je dis que je suis pas là.
Tu veux épater ta pote Sandra.
Ah, tu l'amènes faire un tour de pédalo sur le lac du parc de la Tête d'Or.
B, t'as un plan pour t'incruster dans un vernissage à la galerie Le Bleu du Ciel sur le plateau, décidément Martine est pleine de ressources.
Ou C, tu lui proposes de participer à un atelier Fabrique ton God toi-même au festival féministe Octopussy.
Ouais, si je veux l'épater, plutôt c'est à chaque fois, c'est ça, hein, mais c'est vrai, si je veux l'épater, Fabrique ton God toi-même.
Et le festival Octopussy qui a lieu actuellement à Lyon.
Donc, le résultat, tu es une lyonnaise punk, une punk pragmatique. Voilà. Si vous voulez écrire une description plus longue en mode...
Est-ce qu'il y avait punk romantique, non ?
Punk intello.
Punk intello et punk pragmatique.
Voilà.
Là, c'est pragmatique.
Et quand on allait à Méribel faire du pédalo, c'était quoi la punk romantique ?
En fait, franchement...
En fait, il n'y a pas de méthodologie.
Non, aucune méthodologie.
Ouais, en fait, on aurait aimé en avoir une, mais on a un peu manqué de temps.
Donc, vous êtes des punks pragmatiques aussi.
Ouais, exactement. Voilà.
On se réécoute une
fois. Ouais. Radio Canu 102.2, on vient d'écouter Lydia Lunch avec le morceau Atomic Bongo.
Et je me suis trompée tout à l'heure, c'était pas la brasserie Saint-Georges, c'était la brasserie Georges.
T'es voilà. Pas encore assez bourge, mais bientôt, t'inquiète, on sera riche et célèbre.
Mais payez-moi des restos.
On ira tous les jours.
Ça finira par venir. Alors, on va passer à l'agenda, plutôt chargé là, en cette fin de semaine. On commence par un film ce soir projeté au centre LGBT qui porte sur les Butch. Donc c'est un film qui s'appelle Butcheuse, je crois, et qui est projeté en non-mixité Mamou in Trans. Le lendemain, c'est la Pride. Donc c'est demain à 14h à Bellecour, le départ de la Pride.
Et on peut dire qu'il y a des cortèges plus libertaires organisés aussi pour la Pride. Il n'y a pas que des chars commerciaux. Il y a la CGA, je crois, qui a prévu de faire un cortège. Il va y avoir un rassemblement aussi féministe dans ce coin-là et tout ça.
Ouais,
Si vous n'aviez pas envie d'y aller un peu comme moi, mais que vous dites, allez, il y a un peu des camarades qui vont, on n'a qu'à y aller.
Il y a la CGT aussi qui a fait une délégation.
Waouh.
L'information.
La CGT chômeur ou la...
Non,
CGT Globe.
Ah, la CGT chômeur, ça n'existe plus. La CGT chômeur n'existe plus, malheureusement, mais la CGT confédérale, ouais, c'est une volonté confédérale d'être présent sur la Pride.
Et on est en plein dedans, c'est le festival Octopussy qui a commencé mercredi, donc où il y avait des lectures, et qui continue ce soir au Rita Plage, avec à 19h le concert des Enculettes, et à 21h le tour de chant, le spectacle du collectif L'Intruse. C'est un festival qui va continuer samedi et dimanche, avec samedi à l'Atelier des Canulars, à partir de 13h, un atelier d'expression corporelle par Nadine Gardner, qui va se poser la question de comment nos identités et les genres impactent notre façon de bouger. Donc il faut réserver, hein, il faut envoyer un mail à octopussyfestival@outlook.fr. À 17h, une présentation du livre Les plantes abortives. Et à 20h, une mini-boom et une maxi-bouffe. Tout ça à l'atelier des Canulars, rue Montesquieu, dans le 7e. Dimanche, toujours à l'atelier des Canulars, à 14h, L'accouchement est politique, une présentation du livre par ses autrices. Voilà. Et ce soir, c'est au Rita Plage, donc c'est au 68 cours Tolstoï à Villeurbanne. Il me reste des dates, je crois. Excuse-moi. Et aussi, les concerts d'Antidaté. Donc le 21 à la Méduse, qui est juste à côté de Radio Canu, si je ne me trompe pas, on fera signe si c'est...
C'est bon.
C'est bon. Et le 23 à l'Atmo, c'est au 9, Montée des Carmélites, dans le premier.
Merci. Et, quand tu viens à Lyon, est-ce que tu sors un peu?
En fait, je vois des gens que je connais, donc je sors mais avec des... Parce que je reste jamais 10 jours, quoi, donc je sors pas... Pour de vrai, mais je vois plein de monde par contre.
Ah, mais maintenant qu'on se connaît, tu vas pouvoir venir au truc féministe.
C'est vrai.
On a de la date.
Alors, qui est-ce qui a prévu une conclusion?
Personne. Bah, quand même, merci beaucoup d'avoir été là, parce que c'est vrai que... On suit votre travail depuis longtemps, puis c'est vrai que...
T'as vu, ça y est, tu t'es remis à la voyer.
Ah ouais,
parce qu'on s'est entraînés, hein, voilà, pour ça.
Mais je pense que, ouais, en fait, c'est pas souvent qu'on invite des personnalités publiques, en fait, à la radio. On a plutôt à cœur d'interviewer des gens qui n'ont pas souvent la parole, et c'est vrai que pour nous, en fait, t'inviter, c'est particulier, parce qu'on a quand même le sentiment que... Enfin, on se reconnaît dans ce que tu dis et tout ça. Donc voilà, ça fait hyper plaisir que tu aies accepté de venir. Et voilà, c'est un bon coup de pub pour la radio, pour notre émission. Et puis.
C'est super cool pour moi. Bon, c'est cool. Voilà.
Est super contente. Merci beaucoup.
Merci. C'est comme ce que tu as dit tout à l'heure. Nous, en fait, on te connaissait depuis longtemps.
Ouais.
Ouais, merci beaucoup. Et l'émission sera réécoutable sur la plateforme Radio Rageuse et aussi sur nos blogs Lilith, Martine et les autres. Et on n'est pas des cadeaux, avec, comme d'habitude, toutes les références pour les musiques. Et voilà.
À la semaine prochaine.
Salut,
salut.
Merci.
Salut. Salut.